Moi, j'ai un message biblique pour vous ce matin, pour l'occasion que j'appelle « Ça n'a pas de bon sens ». Ça n'a pas de bon sens. C'est tiré de l'Évangile de Luc, chapitre 15, où Jésus raconte trois histoires renommées, hein, l'une après l'autre, trois histoires de perte. Okay? Il y a la brebis perdue, l'argent perdu et le fils perdu. Tout le monde connaît ces histoires-là en Luc, chapitre 15. Et ces trois histoires, quand nous les lisons ensemble, ça nous pousse à déclarer, ça n'a pas de bon sens quand on lit ces trois histoires-là, que Jésus raconte l'une après l'autre, ça n'a pas de bon sens. D'abord, il y a le berger qui quitte 99 brebis pour aller à la recherche d'une. En plus, il laisse 99 autres dans le désert, traduit « wilderness » en anglais, un lieu sauvage, alors c'est un risque. Il risque 99 pour une. Normalement, on dirait qu'une perte de 1% fait partie du business. Oui? Il n'y a pas trop d'affaires ici. Une perte de 1%, on est capable de vivre avec. Et surtout, ne pas mettre en péril, potentiellement en péril, 99 pour une. It's not good business. Ça n'a pas de bon sens. Les chiffres n'appuient pas sa décision. En plus, quand il trouve la brebis, il appelle une fête, Luc 15-6. Il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je ne sais pas qu'est-ce qui a servi à la fête. L'agneau sur barbecue, peut-être? Mais peu importe. Ça semble être un peu exagéré comme réaction au fait d'avoir trouvé une brebis quand il avait quand même 99 qui étaient là avec lui. Ça n'a pas de bon sens. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on lit l'histoire, on dit que non. La deuxième histoire, c'est une femme qui perd une pièce d'argent et qui fait tout ce qui est nécessaire pour la trouver. Tout à fait normal. Mais dès qu'elle trouve son argent, elle aussi appelle une fête. Luc 15-9. Elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi quand j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Pour ceux qui se demandent c'est quoi une drachme, c'est une pièce d'argent qu'on pouvait tenir dans une main, dont le mot « drachme » parce que c'est un mot associé avec la main. C'est à peu près 40 $ aujourd'hui ou une journée de salaire dans le temps. Elle prend toute la journée pour trouver son argent, dont elle perd une journée de salaire pour trouver une journée de salaire, et par la suite, elle dépense la valeur de l'argent qu'elle avait perdu et retrouvé pour fêter avec ses amis le fait d'avoir trouvé sa pièce d'argent. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'ai trouvé mon argent, on va le dépenser. What? Et là, la dernière histoire, qui est le plus renommée de toutes les histoires, celui du fils perdu, le fils prodigue, hein? Si vous voulez. Où un des fils demande son père son héritage. Pendant que son père est vivant. Qui est une autre façon de dire « meurs ». Die, why don't you? Vrai ou faux? Pourquoi es-tu encore vivant? Je veux mon héritage. Je méprise ta vie. Je ne veux plus attendre mon héritage car tu ne meurs pas assez vite. Vrai ou faux, c'est ça. Je suis allé d'attendre mon héritage, là, je veux l'avoir là, parce que tu ne meurs pas assez vite. Donne-moi ma portion tout de suite pour que je quitte toi et ta maison pour vivre comme si tu étais déjà mort. Quelle insulte! Quelle offense! Quel affront! Quelle ingratitude enfantin! Mais malgré que le fils dépense son argent d'une façon entièrement irresponsable, dans la débauche, Jésus nous dit, et malgré la profondeur de l'offense et de l'insulte contre son père, Jésus raconte qu'au retour du fils vers la maison, vous le connaissez très bien, il est sur l'écran, comme qu'il était encore loin, malgré tout ce qui a pris place, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa et dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras. Mangeons. » C'est une de mes phrases préférées dans toute la Bible, ça. Right? I mean, des phrases qui m'inspirent dans la Bible, mais Emmenez le veau gras et mangeons, là, ça m'inspire, ça. Tous les hommes disent. Emmenons le veau gras, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils était perdu et il est retrouvé et il commence à se réjouir avec la musique et les danses. Ça n'a pas de bon sens. Aucune trace de vengeance, colère, vindicte dans le cœur du Père. Rien que l'amour, la compassion, la grâce, le pardon, entièrement illogique, inhumain, c'est inhumain cette histoire. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous enseigner. Ces histoires ne sont pas humains, ils sont divins. C'est Jésus, le bon berger, qui ne compte pas le coup et poursuit la brebis perdue. C'est le Seigneur qui place tellement de valeur sur nos vies qu'il va nous chercher jusqu'à temps qu'il nous retrouve. C'est Dieu, le Père, qui regarde et attend avec patience et anticipation pour nous, malgré nos gestes et paroles offensives et nos actions irresponsables, pour courir vers nous, bras ouverts, dès que nous faisons juste un pas en sa direction. Ça n'a pas de bon sens, mais combien sont heureux pour un Dieu avec un amour extravagant, illogique et irrationnel. C'est notre Dieu. Come on, une bonne main d'applaudissement. C'est lui. Ce sont pas humains, ces histoires-là. Ce sont divins. Justement, nous, on dit ça n'a pas de bon sens. Yes, ça n'a pas de bon sens. L'amour de Dieu, la patience de Dieu, ça n'a pas de bon sens. C'est ce qu'il veut nous enseigner. J'imagine que votre témoignage est comme le mien. Non seulement que le Seigneur m'a trouvé quand j'étais perdu, mais me poursuit quand je m'égare pour me rediriger vers le bon chemin. Et fois après fois après fois, il m'attend avec patience, prêt à me pardonner quand je fais à ma tête, quand je vais pécher contre lui, quand je vais l'insulter, l'offenser avec mes gestes, mes paroles, et parfois par ma négligence, vivant comme s'il n'existait pas, comme s'il était mort, comme le fils prodigue. Mais à chaque fois que je fais un pas vers lui, il est toujours là. Combien sont heureux pour la grâce et la patience de Jésus. Il me retrouve, il m'attend, il est là. Waouh! Chaque fois que je tourne ou retourne vers lui, il est là, constant, compatissant, généreux. Ça n'a pas de bon sens que Dieu m'aime de cette manière. Ça n'a pas de bon sens qu'il m'aime quand je suis indigne de son amour. Ça n'a pas de bon sens qu'il m'aime quand je ne suis pas aimable. Vous allez peut-être être surpris, mais je ne suis pas toujours aimable. Bonne chance que mon épouse n'est pas là pour dire « Amen ». Le temps de voir à l'église Nouvelle-Ville-Longueuil, c'est pour ça. Mais la bonne nouvelle est que Jésus, le Seigneur, n'arrête jamais de m'aimer et de me poursuivre et de regarder pour moi. Ça n'a pas de bon sens. Et je crois que c'est ça l'apôtre Paul voulait dire quand il a écrit ces mots en Éphésiens. Que vous puissiez, c'est une prière qu'il y a, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est vous et moi ça, quelle est la largeur, longueur, profondeur et hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et le mot connaissance ici peut être remplacé par la logique, la raison, la rationalité. L'amour de Jésus dépasse la raison, la logique, les émotions et réactions normales et humaines. Et pourquoi? Pourquoi que l'apôtre Paul voulait tellement que nous saisissons la signification et la profondeur de cet amour? Parce que ça change tout. Il dit, je prie que vous puissiez avoir une révélation. Ça dépasse la logique, je comprends. Ça n'a pas de bon sens. Mais je prie la longueur, hauteur, largeur, profondeur de l'amour de Dieu. Parce que de savoir que nous sommes aimés par Dieu d'une façon extravagante et inconditionnelle est le meilleur remède pour le rejet, la solitude, la mauvaise estime de soi, les insécurités et les complexes et la crainte. Parce que c'est Jean qui a dit, l'amour parfait bannit la crainte. Point. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment? Un bon applaudissement. Waouh, ça change tout dans ma vie. Ça bannit la crainte. Ça chasse la crainte de ma vie. Et c'est pour ça que Jean, plus que n'importe qui d'autre, même plus que Paul, écrit sur l'amour de Dieu de long à large. Car comme Paul, il connaissait la puissance guérissante d'une compréhension de l'amour de Dieu. De comprendre l'amour de Dieu de cette manière-là, ça nous libère de toutes nos anxiétés, inquiétudes. La puissance guérissante d'une compréhension de l'amour de Dieu peut juste nous guérir des phobies et toutes nos craintes rationnelles et irrationnelles. Comme moi, j'ai des craintes irrationnelles. Moi, je crains les avions. Prie pour moi. Je quitte mercredi soir pour la Belgique. Moi, je n'aimais pas voler avant COVID. Là, c'est le premier vol que je prends. Moi, je suis habitué à voler beaucoup dans une année, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, ici au Canada, de prendre beaucoup de vols, mais je n'ai pas pris un vol d'avion depuis avant COVID. Ça va être le premier vol que je prends mercredi. Je n'aimais pas voler dans les airs avant COVID, mais là, avec toutes les restrictions, masque tout long, avoir ton papier vacciné, testé, bing, bing, tout ça, c'était compliqué. Avant, c'était encore pire. Mais prie pour moi parce que j'aime pas. J'aime pas les avions, j'aime pas être dans les avions. C'est pas parce que je crains voler dans les airs. Non, je crains ne pas voler dans les airs, tout d'un coup. Moi, je crains pas du tout être dans les airs. C'est de ne pas être. Mais c'est irrationnel. Parce que chaque fois, j'arrive sain et sauf. Mais je suis quand même un peu angoissé quand je suis dans les airs et ça m'empêche de jouir de la bonne fine cuisine Air Canada. Et ça m'empêche d'être relax dans les chaises confortables d'Air Canada. J'arrive sain et sauf, mais c'est irrationnel. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, « Pasteur Marc, il ne faut pas avoir peur d'être dans un avion parce que tu ne mourrais pas avant ton temps. Personne ne meurt avant son temps. » Moi, je réponds toujours correct. C'est peut-être pas mon temps, mais c'est peut-être son temps à lui. Moi, je réponds toujours, « Moi, je suis dans un avion. » Je dis, « C'est peut-être pas mon temps, Seigneur, mais j'espère que ce n'est pas le temps de personne ici, cet avion. » Tu comprends? Ça ne m'aide pas. Nous avons tous des craintes rationnelles, irrationnelles, mais que ce soit des phobies banales comme celle-là ou les constants soucis, sentiments d'insécurité, parfois panique associés à la vie. N'oublie jamais l'amour parfait, bannir la crainte. Et c'est pour ça que Jean, il écrit, Paul l'écrit, ça n'a pas de bon sens, mais c'est ça qui bannit la crainte. Si un mot pour décrire le psyché mondial depuis un an et demi, c'est la crainte. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai les petits malaises irrationnels. On rit un peu de ça, d'un avion, mais il y a quand même des choses très sérieuses, des craintes très sérieuses, surtout c'est ainsi. On vit comme depuis avant COVID, puis aujourd'hui, une surdose d'angoisse et d'anxiété. Est-ce que je me trompe? Dû à grande partie des voix des médias, les médias que j'appelle la voix de la crainte, il nous donne toujours quelque chose d'autre à craindre, toujours une raison, un nombre illimité de raisons pour craindre. Depuis plus qu'un an, craignez la COVID. Maintenant, c'est craignez les variants, craignez la quatrième vague, craignez ceux qui ne sont pas vaccinés, craignez ceux qui ne portent pas de masque. On ajoute à cela, craignez la police, craignez les blancs suprémacistes, craignez le changement climatique, craignez le soleil, craignez la viande rouge et les pets de vache, craignez l'huile, craignez le pétrole, craignez les énergies fossiles, craignez les homophobes trans. Craignez ceux qui ont une opinion contraire. Et il y a mille et une raisons pour craindre. Mais vous, comme moi, j'ai un choix à prendre à chaque matin quand je me réveille. Quelle voix que je vais écouter aujourd'hui? Quel choix ferai-je parmi toutes les voix qui crient pour mon attention? Vous savez de quoi je parle, hein? Il y a plusieurs voix qui crient pour notre attention. Puis à chaque matin, nous avons une décision à prendre. Quelle voix que je vais écouter aujourd'hui? Est-ce que je vais écouter les voix dans ma tête? Il y a toujours plus qu'une voix dans ma tête, et je ne parle même pas de mon épouse. Ça, c'est une voix de plus dans ma tête le matin. Vous savez de quoi je parle? Les voix dans notre tête, c'est la voix de mes pensées, la voix de mes émotions, le hamster, là, toutes les choses à faire, les attentes, les devoirs, les soucis. On a des voix dans notre tête. Est-ce que je vais écouter la voix de mon corps avec tous ses désirs, impulsions et appétits? Est-ce que je vais écouter la voix de l'ennemi de mon âme qui cherche toujours à semer le doute et le découragement? Est-ce que je vais écouter la voix des médias que j'appelle la voix de la crainte? Ou est-ce que je vais écouter la voix de Jésus? Elle est moins agressante and in your face que les autres voient, mais elle est quand même constante et claire. La voix de Dieu dit quoi? Ne crains point, ne crains point, ne crains point. Tu es aimé, nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Écoutons la voix de Jésus et la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Nous avons une décision à prendre. Est-ce que j'écoute les autres voix ou la voix de la parole de Dieu qui dit plus que 300 fois, ne crains point. Il doit avoir une raison pour cela. Karine, c'est pour ça l'apôtre Paul et c'est pour ça que Jean, il voulait vraiment qu'on saisisse l'amour de Dieu. Ça change tout. Ça nous libère, ça nous guérit, ça nous inspire. C'est pour cela que je prie comme Paul a prié, pour une révélation de cet amour. Une révélation de cet amour pour vous et pour moi à chaque jour, pour notre santé mentale, émotionnelle et spirituelle, par la compréhension que le Seigneur nous aime et que nous avons de la valeur à ses yeux. Comme la valeur de cette pièce d'argent aux yeux de la femme dans l'histoire et encore plus. Comprenez quelque chose ce matin. Nous sommes tous indignes, mais jamais sans valeur. Une différence. En anglais, we say we're unworthy, but not worthless. Indigne, mais non pas sans valeur. Car nous avons tellement de valeur que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Nous sommes aimés. Vous êtes aimés plus que vous pouvez imaginer. Car je crois que l'amour de Dieu est quelque chose que nous devons tous expérimenter, mais aussi exprimer. Que l'amour extravagant de Dieu ne soit pas seulement quelque chose que je reçois, mais quelque chose que j'exprime, quelque chose que je dégage dans ma vie quotidienne. Comme l'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens, l'amour de Christ nous presse. Squeeze, ça nous dit le grec. Squeeze, ça nous presse. C'est une force qui nous écrase à un tel point que nous n'avons comme pas de choix que de bouger, agir. C'est l'amour de Dieu, pour Dieu et de Dieu, qui est notre motivation pour faire tout ce qu'on fait. Je me souviens quand mon seul fils, Jay, avait une attaque de l'asthme sévère à l'âge de 2 ans. Je me souviens comme c'est hier. Pour la première fois dans sa vie, mon épouse m'appelle au bureau, au téléphone, puis moi, j'avais une réaction typique de ma part. Elle dit, « Hey, ton fils va pas bien. » Moi, je dis, « Bien, je suis occupé. Je suis occupé. Occupe-toi de lui. Il va être correct. Je m'en occupe quand je retourne à la maison. Je n'ai pas le temps. » Elle n'a rien dit. Elle a juste mis mon fils au téléphone comme ça pour que j'entende le son de son respire difficile. J'ai entendu le son de mon fils qui avait la difficulté à respirer. Juste ça. Quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite sauté dans ma voiture, pleine vitesse à la maison, embarqué dans la voiture et couru vers l'hôpital. Et tout au long, quand j'entendais mon fils, là, le son là, qui cherchait de remplir ses poumons, quand j'entendais tout long, là, je me disais, j'aurais tellement préféré que ce soit moi qui souffre et non pas lui. Et les parents savent de quoi je parle. Hein? On appelle ça la compassion que nous avons pour nos enfants. On préfère souffrir à leur place. Moi, je pensais être dérangé au bureau. Je pensais que j'étais trop occupé. J'avais mille et une excuses pour lesquelles je ne pouvais pas me déplacer jusqu'à temps que j'entends le son. Entendre le son, et là, j'ai bougé. Et je dis tout cela pour dire que je prie encore d'entendre le son. Moi, je veux entendre le son des personnes qui souffrent, le son du cœur de Dieu, le son des perdus, le son des perdus sans une éternité, dans une éternité sans Dieu, le son de la trompette pour que je bouge, le son de toutes ces personnes à l'extérieur de ces quatre murs de l'Église qui cherchent une raison d'être, ils cherchent la vie, l'espérance. Je vais entendre le son des personnes perdues pour que je bouge. Seigneur, fais-nous bouger, déplacer, courir, faire ce qui est nécessaire. Fais-nous entendre le son et le son du cri de cœur de Dieu et son amour pour cette ville et cette région. Je veux entendre le son pour que je me débarrasse de toutes mes excuses pour ne pas donner, faire, être, m'impliquer, servir. On veut entendre le son. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça fait toute la différence. L'amour de Dieu expérimenté et l'amour de Dieu exprimé. D'avoir ce niveau de compassion pour les autres, pour les âmes, c'est exceptionnel et rare, mais possible. Regarde ce que l'apôtre Paul a dit en Romains 9. Je dis la vérité en Jésus, en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Pourquoi il dit tout ça dans son introduction? Parce qu'il dit, vous n'allez pas croire ce que je dis, mais je te dis, là, le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, là, je jure que ce que tu dis est vrai. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Wow! C'est pour ça qu'il dit, ce que je dis est vrai, là. Je ne suis pas en train juste de blaguer ou de me vanter ou de ou exagérer. Le Saint-Esprit est témoin. Wow, quelle phrase! Séparé de Christ. Il dit, je suis prêt à donner ma vie pour les personnes perdues, d'être séparé de Christ. Puis ça, c'est l'apôtre Paul. On sait à quel point qu'il aimait Jésus. Mais Paul était prêt à sacrifier son salut pour les autres, si ce fut possible. C'est une expression littérale du cœur de Christ. Parce que c'est ça que Jésus a fait pour nous. Alors, c'est impossible que Paul donne sa vie pour un autre, parce qu'on sait que Jésus a souffert à notre place. Jésus a donné sa vie pour nous. C'est lui qui a subi la malédiction et la perte et la souffrance et la mort à notre place. Alors, ce n'était pas nécessaire pour que Paul donne sa vie et ce n'était pas possible que Paul le fasse. Mais on voit le cœur de Jésus pour les âmes en lui. Et on dit, Paul, qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est justement ça qu'on peut être rempli de cet amour illogique qui dit... Je veux tellement gagner les âmes, je veux tellement parce que j'ai l'amour de Christ en moi qui me presse, même prêt à faire quelque chose qui n'est pas possible. Est-ce que je peux entendre en ménage ça? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? On lit ça, on dit, wow, Paul. Mais il dit, non, c'est ça, cet amour-là. L'amour pour les autres. C'est pour ça que je dis, ça n'a pas de bon sens. Que le Seigneur nous donne, je termine dans quelques instants, mais que le Seigneur nous donne une passion pour les âmes qui nous pousse encore à faire des choses illogiques d'une façon parlée. Comme quitter le confort d'une maison ou une famille ou une carrière et parfois même un pays pour répondre à l'appel de Dieu au ministère, comme les Rollins, comme les Capalières, comme plusieurs autres ont fait. Ils ont quitté. Moi, ça fait 15 ans qu'on fait l'ETF, 16 ans, 17 ans qu'on fait l'ETF, et à chaque année, il y a des personnes qui quittent leur pays, leur famille, leur maison, parfois des carrières, un avenir, parce qu'ils répondent à l'appel de Dieu, et ils ne savent pas qu'est-ce que les attend, et ils ne font pas pour la richesse, ça, c'est certain. Et il fait ça des fois avec sacrifice, avec souffrance, sans savoir qu'est-ce qui les attend. Mais pourquoi? Puis des fois, j'entends des histoires de ceux qui sont à l'ETF pour répondre à l'appel de Dieu, pour avoir une formation théologique pour le ministère. J'entends leur histoire, puis je dis, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Tout ce que vous avez quitté pour être là, pour faire ça, sans savoir qu'est-ce qui vous attend, ça n'a pas de bon sens. Mais la réponse est toujours pareille. Mais c'est l'amour pour l'amour de Dieu. C'est l'appel de Dieu. On veut servir le Seigneur, on veut obéir le Seigneur. C'est l'amour de Christ qui nous passe, ça n'a pas de bon sens. Mais merci Seigneur que cet amour illogique règne encore aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Merci Seigneur. C'est illogique, comme ceux qui donnent leur temps, leur argent, leur talent, leurs dons, leurs efforts pour les églises et ces ministères, année après année après année. Vous, les bénévoles, les personnes qui s'impliquent, les personnes qui sont là, année après année, vous êtes là malgré vos occupations, vos soucis personnels, malgré vos charges, vous êtes encore là, vous donnez du temps, vous donnez de votre argent, vous donnez de votre besoin, vous êtes généreux. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, mais c'est pourquoi qu'on le fait. C'est l'amour de Christ qui nous presse. Tous ceux qui vont être dérangés pour nous aider avec les enfants qui arrivent la semaine prochaine. Et il va falloir se réveiller un petit peu plus de bonheur le dimanche et d'être ici un petit peu plus de bonheur puis être certain que tout est préparé en bas et peut-être manquer la réunion pour les bébés qui pleurent et font d'autres choses aussi, encore plus désagréables. Et aussi pour accueillir les enfants puis les enseigner puis les aider puis prendre soin et tout ça. Ça n'a pas de bon sens avec tout ce que vous avez dans votre vie, oui, mais on le fait parce qu'on aime les enfants, on aime l'Église, on aime les parents, on veut offrir quelque chose aussi à ceux qui arrivent, les jeunes familles. C'est l'amour de Christ qui nous presse à faire ce qu'on fait. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça n'a pas de bon sens, mais c'est l'amour de Christ. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que l'Église Nouvelle Vie, qui a des ressources limitées, des finances limitées, nous avons nos mains plein avec Église Nouvelle Vie Longueuil. Ça n'a pas de bon sens que l'Église Nouvelle Vie Longueuil, tout d'un coup, il y a Église Nouvelle Vie La Prairie, puis après ça, l'Église Nouvelle Vie Drummondville, puis après ça, l'Église Nouvelle Vie Charlevoix, puis après ça, l'Église Nouvelle Vie Sept-Îles, et là, il y a l'Église Nouvelle Vie Châteauguay, puis après ça, ça va être l'Église Nouvelle Vie, bien, on verra. Mais ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Toute l'équipe qui est avec moi, là, en arrière, vous dire les mêmes choses. Des fois, on gratte la tête, on dit, avec tout ce que nous avons à faire, comment ça se fait que le Seigneur ouvre une autre porte là-bas? Ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est justement, ça n'a pas de bon sens, mais c'est l'amour de Christ qui nous presse, qui nous pousse, parce qu'on entend le son d'une région, une autre région, une autre région, une autre région, et tout ce qu'on fait, on fait pour la gloire de Jésus, pour sa gloire, pour son honneur. Ça n'a pas de bon sens. Daniel et José, 30 ans, dans la même église, même congrégation, même ville, sacrifier, servir jusqu'à la fin, faire ce qui est nécessaire pour assurer la succession et tout. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est par l'amour de Christ, l'amour de Jésus qui remplit nos cœurs pour faire ce qui est nécessaire. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est l'amour de Dieu, ça n'a pas de bon sens, mais exactement, exactement. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Tu ne tueras point ». « Tu ne tueras point », c'est une histoire vécue, ça. C'est une histoire vécue de guerre et d'un homme qui a sauvé des soldats de la guerre. C'est un chrétien. Puis c'est un film de guerre, c'est un film extraordinaire, puis c'est une histoire vécue d'un héros qui n'était pas là à la guerre pour tuer, il était à la guerre pour sauver. Puis la manière qu'il a mis sa vie en péril, les risques, la souffrance pour aller là, mettre sa vie en danger, pour sauver des blessés, puis il a ramené des dizaines et des centaines lui-même, parce qu'il avait à cœur ces personnes-là. Puis s'il vous plaît, il ne faut pas dire « Pasteur Mark, c'est un film de guerre, c'est pas un film, c'est un film de violence, il ne faut pas citer des films comme ça parce qu'il y a un langage un peu intense dans le film. » Ça, c'est vrai, ça. Mais quand tu reçois une balle dans l'épaule, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? « Colin, ça pince? » Quand il perd une jambe dans une explosion, il ne va pas dire « Ouh, tabarniche, ça fait mal. » C'est un film de guerre, un film réel. Ça, je ne veux pas entendre, je ne veux pas avoir des emails. Pasteur Mark, t'as cité un film. Come on, c'est un film de guerre. Mais c'est l'essence de l'héroïsme. C'est pour ça que j'aime ce film-là, c'est l'héroïsme. Mais c'est surtout sa prière. C'est surtout sa prière dans le film. Il dit, Seigneur, puis là, il se met à genoux, puis il prie. C'est ça qui m'a... Il dit, Seigneur, donne-moi la force, l'énergie, la protection pour sauver un homme de plus. Un homme de plus. Un homme de plus. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit la même prière. C'est Seigneur, donne-nous les ressources, l'énergie, la capacité, tout ce que nous avons besoin pour une personne de plus. Un homme de plus. Un homme de plus. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Hein, tout ce qu'on fait, on le fait pour une personne de plus. Un homme de plus. Quelqu'un de plus. On ne veut jamais perdre ça. Pour devenir un religieux comme les pharisiens en Luc chapitre 15, juste avant que Jésus raconte ses histoires. Hein? Il dit, tous les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Très important, ça. Et les frères et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et c'est là que Jésus raconte les trois histoires. Il dit, oui, c'est ça. Yeah, exact. Les religieux, là. Hein? Il ne veut pas se mêler avec les autres. Ils n'ont pas de vision pour les pauvres, les pécheurs, les dysfonctionnels et les perdus, les pharisiens. Oh, regarde-lui. Ils l'ont dit avec mépris. Ils l'ont dit avec mépris. Il reçoit des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Il aurait dû dire avec merveille. Il reçoit des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Wow! Combien sont heureux que Jésus reçoit des gens de mauvaise vie? Come on! Hein? C'est son amour pour les personnes brisées et perdues. Puis il y avait un dédain, un mépris des pharisiens sur Jésus. Il dit, je vais vous raconter trois histoires. Hein? Perdu, 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 perdu. Mais quelqu'un est allé à la recherche. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont eu le party. C'était la fête. Ils avaient une passion. Ils avaient une compassion. Une personne de plus. Une personne de plus. Une personne de plus. Et là, c'était la fête. C'était vraiment le party. Et c'est ça qui est remarquable. Hein? Puis on termine avec ça. J'invite les musiciens en avant. C'est ça qui était remarquable. Après chaque histoire, il y a la fête. Il y a la fête. Chaque histoire, c'est le party. J'ai trouvé la brebis, j'ai trouvé le drachme, mon fils est de party time. Dieu aime les fêtes, hein? Mais pourquoi ça? Parce que ça reflète exactement le cœur de Dieu. Parce qu'il termine son histoire en disant, Luc 15, 10, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » C'est pour ça qu'il y avait une fête là, parce qu'à chaque fois, il y a un homme qui connaît Jésus, un homme qui est converti, ça dit « Les anges se réjouissent au ciel. » Et si les anges se réjouissent au ciel, nous, on peut se réjouir ici-bas. Est-ce que je peux entendre en amène à cela? Pourquoi qu'il se réjouit? Pourquoi que c'est la fête au ciel pour un âme, une personne qui se repent, parce que le ciel connaît la valeur d'un âme. Il connaît la valeur d'un âme. Il connaît l'horreur d'une éternité sans Dieu. Il sait c'est quoi être perdu. Nous, des fois, on perd cette notion-là, mais eux, ils ne perdent pas la notion de la valeur d'un âme, la valeur de l'éternité. Alors, c'est la fête. Alors, le travail de l'Église, c'est servir, c'est sacrifier, c'est donner, c'est pleurer, c'est lamenter, c'est « Seigneur, un homme de plus », mais c'est aussi la fête, la célébration et l'action de grâce parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ avance un homme à la fois. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, tout le monde debout et prenez le temps, mettez votre masque, mais est-ce qu'on peut juste se mettre debout et juste dire « Merci Seigneur que ton Église avance une personne de plus et nous avons le joie, le privilège de participer. » Comment une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour sa grâce, son amour extravagant, pour le privilège que nous avons de participer dans cette grande mission, cette grande aventure avec le Seigneur. Et j'aimerais juste qu'on puisse juste fermer nos yeux pour un instant. Si vous êtes à l'aise avec ça, levez vos deux mains vers le Seigneur et on va juste s'offrir au Seigneur ce matin. Hein? Ce dimanche matin historique de dédicace, de consécration, de nouveaux projets, on veut juste prier puis s'offrir au Seigneur. Seigneur, c'est par amour que ton amour me pousse, que ton amour m'inspire. Seigneur, je prie la longueur, largeur, hauteur, profondeur de ton amour soit révélée à chaque homme, femme, jeune ici, dans cette salle, au nom de Jésus, et qu'on ne perde jamais la notion pourquoi qu'on fait ce qu'on fait. Seigneur, que ce soit notre vision, notre énergie, Seigneur, la raison d'être de ce qu'on fait. Seigneur, je te rends grâce pour chaque personne dans cette salle, mais en même temps, nous réclamons, Seigneur, des familles, nous réclamons ceux qui sont à l'extérieur, nous réclamons cette région, Seigneur, nous réclamons, Seigneur, des célibataires, des couples mariés, des familles, des enfants, des jeunes, des ados, au nom de Jésus, Seigneur, une personne à la fois, on les réclame, Seigneur, par amour pour toi, par amour pour toi. Seigneur, on ne veut pas être ingrat ou égoïste avec ton amour extravagant envers nous. Nous sommes les bénéficiaires de ton amour extravagant, de ta grâce extraordinaire, exceptionnelle. Merci, merci Seigneur, merci pour ta grâce et amour envers nous. Et Seigneur, je prie qu'au-delà d'être expérimenté, que ton amour soit quelque chose qui est exprimé, qui nous pousse, qui nous inspire. Tout ce que nous faisons en arrière de la scène, en avant de la scène, tout ce que nous donnons, faisons, prions, on le fait, Seigneur, pour une personne de plus. Une personne de plus. Multiplie, je prie au nom de Jésus. Multiplie, Seigneur, le fruit de cette Église et le témoignage de cette Église. Fais-nous entendre le son, Seigneur, le son qui nous fait bouger, le son, Seigneur, des personnes perdues qui ont besoin de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Et merci qu'encore aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on fait parfois? Qu'est-ce que les gens vont faire? Mais c'est correct. Ça n'a pas de bon sens que tu nous aimes. Alors, on est prêt à aimer pour et avec toi. Je prie au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Encore une bonne main d'applaudissement au Seigneur.